Avril 1945, Franklin Roosevelt meurt.
Oui, un choc terrible.
Et le monde retient son souffle, l'espoir d'une paix durable, d'une entente entre les alliés, ben, il semble s'éloigner.
C'est clair.
Et un nouveau chapitre s'ouvre, plein, plein d'inconnus.
Et voilà qu'arrive sur le devant de la scène Harry Truman, quasi inconnu à l'international.
Ancien vendeur de chemises, c'est ça? Pas vraiment le profil attendu.
Exactement. Et il hérite d'un monde, bah, en plein chaos, fin de la guerre imminente, et les accords de Yalta super complexes dont il sait presque rien.
Fascinant. Alors aujourd'hui, notre exploration, elle va s'appuyer sur des extraits de transcription vidéo pour essayer de comprendre ça.
Comprendre comment, entre 1945 et 1953, cette alliance de guerre a pu voler en éclats.
Oui, comment on est passé à cette hostilité profonde au début, en fait, de la guerre froide?
Et Truman, lui-même, il était conscient de son manque d'expérience. Roosevelt l'aurait choisi pour des raisons purement électorales.
On dit même qu'il le trouvait nul en privé.
C'est ce qui se dit, oui. Truman avouait être un peu perdu au début. Mais bon, c'était un pragmatique, un bosseur, prêt à apprendre et vite.
Son baptême du feu international, ça arrive très vite. Potsdam, juillet 45.
C'est ça, sa seule et unique rencontre avec Staline et Churchill. Enfin, Churchill qui perd les élections en pleine conférence.
Ah oui, exact. Et il découvre Berlin en ruine. Ça l'a marqué apparemment.
Profondément. Sur Staline, il dit honnête mais malin comme le diable. Une formule assez parlante.
Et Staline, lui, il pense quoi de Truman?
Ben, Staline le sous-estime complètement. Il le voit comme un petit boutiquier, influençable, quoi. Grosse erreur.
Surtout que Truman, à ce moment précis, il a une carte maîtresse.
La bombe atomique, le test Trinity vient de réussir. Un avantage énorme pour les États-Unis.
Et il en parle à Staline à Potsdam.
Il lui glisse un mot, oui. Staline fait celui qui n'est pas surpris, mais en réalité,
Il savait.
par l'espionnage.
Exactement.
Grâce notamment à Klaus Fuchs. Et Staline ordonne direct d'accélérer le programme nucléaire soviétique. La course est déjà lancée, en fait.
Et puis vient l'horreur d'Hiroshima et Nagasaki, août 45.
Pour Staline, c'est perçu avant tout comme une démonstration de force américaine. Un message très clair envoyé à l'URSS.
Genre, attention, c'est nous les maîtres du jeu maintenant.
C'est tout à fait ça. La méfiance, là, elle devient vraiment profonde. Irréversible, peut-être.
Et cette méfiance, elle va devenir publique? Mars 1946, Churchill.
Ah, le discours de Fulton, Missouri. La fameuse expression « le rideau de fer qui est tombé sur l'Europe
Discours prononcé sur invitation de Truman, d'ailleurs. C'est pas anodin.
». Non, clairement pas. C'est une façon pour Truman de préparer l'opinion américaine à un changement de cap, à plus de fermeté.
Et ça arrive juste après le long télégramme, c'est ça?
Oui, février 46. George Kennan, diplomate à Moscou, son analyse de la mentalité soviétique, cet instinct d'insécurité, cette idée que Moscou ne comprend que la logique de la force.
Ça convainc Truman.
Ça le convainc, oui. Et ça mène directement à la politique du containment, l'endiguement.
L'endiguement. Concrètement, ça donne quoi?
D'abord le volet économique. Le plan Marshall, en 47.
Une aide massive pour reconstruire l'Europe de l'Ouest.
Oui, et surtout pour éviter qu'elle bascule vers le communisme. C'est aussi politique, bien sûr.
Et Moscou?
Moscou refuse et force ses pays satellites à refuser aussi. Il dénonce un asservissement, une arme économique américaine. La fracture est là, béante.
Et ça débouche sur des crises bien réelles. Berlin, 1948.
Exactement. Réaction de Staline à la création du Deutsche Mark dans les zones occidentales de l'Allemagne et de Berlin. Il bloque tous les accès terrestres et fluviaux à Berlin-Ouest.
Il veut les affamer, les faire partir.
C'est l'idée. Asphyxier Berlin-Ouest pour faire plier les Occidentaux.
Mais la réponse est
spectaculaire.
Le pont aérien, une opération incroyable.
Des avions qui atterrissent non-stop, parfois toutes les 30 secondes.
Pendant presque un an, livrant des milliers de tonnes de nourriture, de charbon.
Un succès logistique et politique énorme pour les alliés occidentaux et un échec cuisant pour Staline. Il lève le blocus en mai 49.
Mais l'escalade continue.
Ah oui, août 49, première bombe atomique soviétique. Fin du monopole américain, c'est un tournant.
Et la course aux armements s'emballe.
Totalement. Bombardiers stratégiques, puis les missiles intercontinentaux, on entre dans l'ère de la destruction mutuelle assurée, la MAD. Terrifiant.
Et les alliances militaires se forment, l'OTAN en 49.
Côté occidental, oui. Le pacte de Varsovie répondra plus tard, en 55, pour le bloc de l'Est. Le monde se fige en deux blocs.
Et la confrontation devient chaude par endroits. La Corée...
Et de 1950. Le premier grand conflit par procuration. Invasion du Sud par le Nord communiste, soutenu par Moscou et Pékin.
Les États-Unis interviennent sous mandat de l'ONU.
Oui, mais l'arrivée massive des volontaires chinois change la donne. Le conflit s'enlise. C'est un bourbier terrible.
Truman dira même « Quel enfer d'être le président !» On imagine le poids.
Énorme. Et ce conflit dure jusqu'à un autre événement majeur.
La mort de Staline, mars 1953.
Oui, mort soudaine, dans des circonstances un peu troubles, paranoïa, isolement. Sa disparition crée un vide immense, beaucoup d'incertitudes.
Mais ça débloque la situation en Corée.
Paradoxalement, oui. Ça facilite l'armistice quelques mois plus tard. Mais ça confirme aussi la division du monde, gravée dans le marbre.
Donc en moins de 10 ans, c'est fou.
D'une alliance contre le fascisme.
À une confrontation idéologique, géopolitique, militaire, totale.
Méfiance, bombe atomique, crise comme Berlin, guerre comme la Corée. Tout ça a forgé les contours de la guerre froide, très vite.
C'est vraiment vertigineux. Et ça pose une question pour finir. À quel point tout ça a tenu aux hommes?
Aux personnalités?
C'est une excellente question. L'absence de Roosevelt, l'arrivée de ce Truman qu'on n'attendait pas, la paranoïa de Staline, les calculs de Churchill.
Si les acteurs, ou même juste les dynamiques entre eux, avaient été différents à Yalta, à Potsdam, est-ce que ces premières années auraient pu être différentes, moins brutales? Voilà de quoi réfléchir.